Vous écoutez, on lit pour vous.
Un câlin de Thémis pour l'avocat Vincent Ranger. Un texte de Yves Boisvert, paru le 30 janvier 2024 dans La Presse. À la table du café, Vincent Ranger n'essaie pas de jouer les héros. Si ses amis n'avaient pas insisté, je ne sais pas s'ils nous auraient rencontrés. En tout cas, ils ne nous auraient jamais appelés. Ce que ce jeune avocat, admis au barreau en 2012, vient d'accomplir est pourtant digne d'un gros câlin de Thémis, déesse de la justice. Dans l'affaire dont il refuse d'être la vedette, se concentre en effet le meilleur et le pire de notre système judiciaire. Le pire, l'incroyable difficulté du simple citoyen à se défendre contre un exploiteur. L'indifférence institutionnelle devant un truc évidemment abusif, mais trop compliqué, trop long. Police, avocats, tribunaux. Désolé, pas le temps, mauvais papier, allez voir ailleurs. Le meilleur, le dévouement entier d'un avocat ayant décidé que justice serait faite. Et qui fait ça pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Maître Ranger ne cherchait pas particulièrement à tromper l'ennui en s'enfonçant dans une affaire pourrie. Après des études brillantes, il a été recherchiste à la cour d'appel et s'est spécialisé dans le droit pur, pour ainsi dire, rédaction de mémoires d'appel et de procédures complexes. Mais, de temps en temps, il fait du bénévolat pour la clinique juridique du Mile End. Généralement, des trucs assez simples. En août 2018, une femme vient le voir. Elle est propriétaire d'une unité dans un immeuble de 119 appartements à Montréal. Elle se dit harcelée par le propriétaire de l'édifice. Rien de spécial jusque-là. Jusqu'à ce que le jeune avocat se mette le nez dans la structure juridique byzantine de l'édifice et du marécage de litiges dans lequel tout ça baignait. Je me suis rendu compte que c'était un vrai panier de crabes, dit-il. C'était un dossier catastrophique au niveau humain et complexe au niveau juridique. Dans cet immeuble où les trois quarts des gens sont locataires, Maher Balabanian a vendu, de 2007 à 2013, entre 40 et 50 des 119 unités. Une bonne affaire, en apparence, pour des propriétaires qui ne roulent pas sur l'or. Les appartements étaient vendus entre 100 000 et 200 000 $. Le hic, c'est que ces appartements étaient vendus en copropriété indivise. Autrement dit, il ne s'agit pas de condos séparés, mais d'une portion de la propriété totale, de 0,5 % à 1 %. Déjà, ce n'est pas très net et facile à gérer juridiquement. Deuxième hic, qui découle du premier, les banques ne prêtent pas pour ce genre d'arrangement. Pas de problème. M. Balabanian est aussi prêteur hypothécaire. Pour une mise de fonds de 20 % ou même de 10 % il finance l'achat. C'est pas beau, ça? Non, ça ne l'est pas. Car, troisième hic, en cas de différend, le contrat prévoit qu'il faut s'adresser à un arbitre, aux frais de la personne qui se plaint. Et parfois, M. Balabanian impose des amendes pour une insulte. On l'a traité de pharaon une fois. Pour une entrée à vélo trop rapide dans le garage, etc. Vous voulez contester? Faut aller voir l'arbitre. Sinon, l'amende est ajoutée aux frais. Mieux encore, M. Balabanian était propriétaire de près de 80 % de l'immeuble. Il est majoritaire à l'Assemblée des copropriétaires. De toute manière, le contrat prévoit généralement la cession des droits de vote en sa faveur. Bref, l'immeuble est une sorte de monarchie absolue. Gare à quiconque porte plainte dans cet immeuble très, très mal entretenu. On lui coupera le courant, on lui criera dessus, on lui causera mille misères, on le poursuivra. Quand cette femme vient voir Maître Ranger en 2018 et qu'il prend connaissance de l'ampleur du bourbier juridique, il entrevoit le degré de difficulté. Il ne sait pas encore qu'il devra y consacrer plus de 1000 heures. Il ne peut pas se douter que, deux fois, quelqu'un viendra casser une fenêtre de sa maison à coups de marteau ou qu'une brique défoncera une vitre de chez lui une autre fois. Rien ne prouve que ces manœuvres d'intimidation soient reliées au dossier, évidemment. Mais, aux dernières nouvelles, la police ne s'est pas montrée troublée par ces menaces contre un officier de justice. Toujours est-il que l'avocat a plongé. Il s'est battu, longuement, durement. Et le 15 janvier, la juge, Jannick Perrault, de la Cour supérieure, lui a donné raison sur toute la ligne. La juge a ordonné la vente en justice de l'immeuble d'une dizaine de millions et le versement de compensation conséquente à 20 victimes de Balabanian. Au total, des compensations de 5,9 millions en indemnités et dommages et 1,3 millions en intérêts seront prises à même le produit de vente. Sans Maître Vincent Ranger, qui a accompli un mandat pro bono, ce litige n'aurait, semble-t-il, pas eu d'issue, écrit la juge, abasourdie par la mauvaise foi de Balabanian, qui a procédé à une campagne d'épuisement judiciaire des petits propriétaires. Il a délibérément orchestré un harcèlement et violé plusieurs droits fondamentaux dans le but de s'enrichir sur leur dos. Pourquoi l'a-t-il fait? Devant la misère de ces gens-là, presque tous issus de l'immigration, je ne pouvais pas les laisser tomber. Ils viennent de l'Europe de l'Est et du Maghreb, et ils ne comprenaient pas que des choses comme ça puissent arriver au Québec. J'étais un peu gêné comme Québécois, et je ne pouvais pas accepter qu'il n'y ait pas de remède. Je voulais les convaincre qu'on pouvait y parvenir. Un happy end qui illustre en même temps combien il est difficile de contrer les abus devant notre système judiciaire. Pour être considéré comme abusif, un comportement doit presque atteindre un degré psychiatrique. Et encore, sans Maître Ranger, ces abus n'auraient jamais été arrêtés. Il y a pourtant un notaire qui a fait signer des contrats légaux mais qui ouvre la porte à tous les abus. Une clause d'arbitrage obligatoire avait un grand avantage pour Balabanian. Cela privatise ses affaires judiciaires avec ses copropriétaires. Il y a des policiers qui ont haussé les épaules devant cette affaire civile, avec pourtant des airs de crime économique et de harcèlement criminel. Sans compter qu'à la cour, l'affaire sera ballottée d'un juge à l'autre au gré des tricheries de Balabanian. Il n'y a aucun doute. Sans l'engagement de cet avocat, la justice n'aurait jamais été rendue. Il l'a fait pour ces 20 personnes qui n'auraient jamais eu les moyens de mener cette lutte. Mais il l'a fait pour nous aussi, si vous voulez mon avis, vu que chaque injustice redressée fait tourner un peu mieux cette terre. C'était un câlin de Thémis pour l'avocat Vincent Ranger. Un texte de Yves Boisvert, paru le 30 janvier 2024 dans La Presse.
Enquêter sur la police. Un texte de Raphaël Derum, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Depuis 2019, des centaines de futurs policiers et policières du Québec sont suivis à la trace. Il ne s'agit pas d'une filature, mais d'un interrogatoire annuel mené par une équipe scientifique. Le but? Comprendre qui sont ces jeunes qui choisissent le métier. Il fait encore noir quand nous arrivons à l'École nationale de police du Québec, ENPQ, à Nicolette. Il n'est que 6h30, mais il y a déjà beaucoup d'ambiance à la cafétéria. Des dizaines de jeunes en uniforme se fraient un chemin vers le buffet où les attendent café, fruits, sandwichs, déjeuner, smoothies. Tout le monde se salue, parce qu'ils se connaissent et parce que c'est obligatoire. C'est une des règles de savoir-être enseignées ici, tout comme l'interdiction des jeans et des cheveux longs détachés. Après leurs études collégiales, DEC ou AEC en technique policière, aspirants et aspirantes ne peuvent être embauchés avant de réussir Nicolette, comme on surnomme l'école. Pendant 15 semaines, l'ENPQ leur fait vivre la réalité policière. Jour, soir et nuit, ils et elles reçoivent des appels sur leur radio, patrouillent sur le campus ou dans la municipalité de 8500 habitants dans leur Dodge Charger marqué « Formation », portant à la ceinture une réplique de leur future arme de service. Et pratiquent leurs interventions lors de mises en situation faisant appel à des actrices et acteurs professionnels. Comparativement au cégep, ici, ils ajoutent vraiment le facteur stress, dit Ahmed Dahamani, 23 ans, verre de jus d'orange à la main. C'est très réel. La dame que tu mets en état d'arrestation, elle pleure, tu as des larmes qui te coulent sur le bras, ajoute son collègue William Balthazar, 27 ans. Tout le monde vit sur place. On se lève tôt et on se couche tard. « On a des horaires chargés », dit leur comparse, Émile Drouin, 23 ans. Le NPQ accueille entre 30 et 40% de femmes. D'ici quelques mois, Ahmed William et Émile recevront leur attestation et iront gonfler les rangs des corps policiers. Une relève bienvenue, puisque la police québécoise fait face à d'importants problèmes de recrutement et de rétention de personnel. Choisit-on les bonnes personnes dans les programmes d'études en technique policière? Peut-être pas, indiquait le rapport du comité consultatif sur la réalité policière en 2021. Pour mieux connaître les aspirants et aspirantes, le professeur de criminologie à l'Université de Montréal, Rémi Boivin, et des collègues ont lancé, en 2019, une vaste enquête longitudinale intitulée Les trajectoires professionnelles des policiers du Québec. L'étude suit près de 900 étudiants et étudiantes en technique policière depuis leur admission au cégep jusqu'à leur début dans la profession. Chaque année, nous les sondons sur leur parcours scolaire, leurs motivations, leurs objectifs. On mesure également différentes facettes de leur personnalité. Adhésion à la culture policière, maîtrise de soi, intégrité. Détail Rémi Boivin. Ceux et celles qui abandonnent sont aussi interrogés. Tous au garde-à-vous. Quelques minutes avant 7h30, près de 300 aspirants et aspirantes arrivent au gymnase pour le rassemblement quotidien et forment leur rang en papotant. Mais il suffit que retentisse la voix forte de l'aspirant de garde, cohorte, pour que le groupe passe au silence complet. S'ensuit un enchaînement bien rodé durant lequel instructeurs et instructrices exécutent divers saluts officiels, puis inspectent chacun des uniformes. Pour autant, on n'est pas dans Full Metal Jacket. Personne ne crie au visage des recrues. Les échanges cordiaux se font à voix basse, puis, au son des tambours, chaque cohorte sort au pas militaire, gauche, droite, gauche. ce rituel vise à préparer les jeunes à la culture paramilitaire de la police québécoise. Ils se prêtent à l'exercice de bonne grâce, mais le choix de carrière est d'abord motivé par le fait d'aider la communauté, par l'adrénaline liée au travail et par le désir de lutter contre la criminalité, indiquent les données. Le salaire, les avantages sociaux, le prestige ou le pouvoir lié à la fonction sont secondaires. Et la patrouille, très peu pour eux. Déjà, lorsqu'ils commencent leurs études, la fonction de patrouilleur n'est pas la plus populaire. Et quand on leur demande où ils se voient après 10 ans de carrière, ils et elles sont plus nombreux à rêver de travailler aux enquêtes dans le groupe tactique, d'intervention, en supervision ou encore à l'escouade canine. Vous écoutez « Enquêter sur la police », un texte de Raphaël Derome paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Une situation qui ne surprend pas Rémi Boivin, mais qui le préoccupe. Il y a à peu près 15 000 policiers au Québec, dont plus de 10 000 sont patrouilleurs. Si, dès la formation, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, on a un sacré problème. J'ai peur qu'on crée de futurs policiers qui vont être frustrés durant toute leur carrière. Cette frustration est bien réelle, a pu constater Annie Gendron, chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec, ENPQ. La psychologue de formation fait partie de l'équipe qui mène l'enquête longitudinale. Dans d'autres études qu'elle a menées sur le bien-être psychologique des policiers en service, elle constate un pic de désillusion professionnelle à la 6e année de carrière. Dans bien des organisations, en raison des conventions collectives, les possibilités d'avancement surviennent après 5 ans de service. S'ils postulent à un poste, mais ne sont pas choisis, leur bien-être et leur engagement diminuent. Comment expliquer ce désintérêt pour la patrouille? 2 camps s'opposent. Les organisations policières pensent que les cégeps sélectionnent les mauvais profils. L'admission étant très contingentée, les collèges se simplifient la tâche en sélectionnant les jeunes selon les résultats scolaires et les habiletés physiques. Or, les étudiants et étudiantes les plus performants sont souvent très ambitieux. Les études sont claires là-dessus. Il y a un lien direct entre la performance scolaire et des ambitions de carrière, souligne Annie Gendron. Les collèges croient plutôt que c'est la culture des organisations policières qui ne répond pas aux valeurs de la génération Z. Ces jeunes veulent participer aux décisions, veulent que leurs opinions soient considérées, alors que la police, c'est du commandement du haut vers le bas, poursuit l'experte. Qui a raison? Selon Annie Gendron, les deux phénomènes cohabitent. Il serait souhaitable de diversifier les critères de sélection. Mais il faudra aussi que les gestionnaires policiers soient plus à l'écoute de leurs troupes. À court terme, je ne pense pas qu'on va abandonner le modèle paramilitaire. Mais des gestionnaires plus ouverts et bienveillants envers les équipes amélioreraient le bien-être au travail et la rétention du personnel. Un problème particulièrement criant dans les corps policiers autochtones, souligne l'experte au passage. Déjà, la relation entre les communautés et la police est très teintée des traumatismes générationnels du passé. Comment retisser un lien de confiance si le personnel change constamment? Un autre défi tient au fait que 70% des déplacements policiers ne sont pas liés à la criminalité. Dans la seule année 2019, les corps policiers québécois sont intervenus plus de 80 000 fois auprès de personnes ayant des troubles de santé mentale. La formation a été bonifiée en ce sens, mais les organisations policières aimeraient que les collèges tiennent compte, lors de l'admission, des habiletés interpersonnelles, de l'intelligence émotionnelle et de l'ouverture à la diversité. Bien sûr, c'est difficile d'évaluer ces caractéristiques-là, mais le bulletin, ce n'est probablement pas suffisant comme outil, fait valoir Vincent Mousseau, post-doctorant sous la direction de Rémi Boivin. Une police qui se cherche. La police québécoise s'interroge sur la voie à adopter pour l'avenir. Le comité consultatif sur la réalité policière, mandaté par le ministère de la Sécurité publique en 2019, a rencontré 54 groupes et reçu 80 mémoires. Son rapport final concluait notamment que les forces de l'ordre sont dépassées par la cybercriminalité, manque de femmes et de personnes issues de la diversité et doivent évoluer. Parmi ces 138 recommandations, revoir les critères d'admission en technique policière. Qu'est-ce que la culture policière? La culture policière a été étudiée par les sociologues dès les années 1960. Il s'agit d'un ensemble de valeurs ou d'attitudes partagées à divers degrés par les policiers et policières. Ça peut inclure un certain machisme et une attitude conservatrice, explique Rémi Boivin. Il y a l'idée du « nous contre eux », que le monde extérieur est dangereux et qu'on doit donc se protéger entre policiers. Ça s'exprime par une certaine résistance face au regard extérieur, au changement de pratique ou aux volontés de la haute direction. Elle inclut aussi tous les rituels d'initiation et la conviction que personne ne peut comprendre le travail policier sans l'avoir vécu. Dans le feu de l'action. Monsieur, je vous demanderai de rester assis, s'il vous plaît, entend-on à travers le haut-parleur. Debout dans un corridor en compagnie d'un groupe d'aspirants et aspirantes, j'observe la scène à travers une vitre sans teint. Appelé pour cris et pleurs dans le modeste appartement, une réplique utilisée pour les mises en situation sur le campus, Ahmed Dahamani et sa partenaire Alexia Pelletier sont en pleine intervention. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait. » Restez calme jusqu'ici, l'homme, en réalité un comédien, s'impatiente. Poussé contre le mur par les deux agents qui tentent de le maîtriser, il se débat. Tous trois tombent par terre. Voyant leur consoeur chuter, les aspirantes à mes côtés sont saisies d'émotion. Aïe, aïe, il est rough. Cloué au sol, l'homme vocifère des insultes à sa conjointe, une actrice aussi, qui sanglote. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ahmed Dahamani fait de son mieux pour le menotter, mais les menottes ne collaborent pas plus que le suspect. Puis, le duo escorte l'homme jusqu'au véhicule de patrouille. Scénario terminé. De retour avec le groupe, sous les applaudissements de leurs camarades, les deux jeunes agents sourient, visiblement soulagés. En rétroaction, l'instructrice recense leurs bons coups et les éléments à améliorer. Malgré le stress, ils ont agi avec professionnalisme. Les inconduites policières existent, mais ces comportements problématiques sont concentrés chez un petit nombre de policiers et policières, indique la littérature scientifique. On note une association avec certains profils, notamment la forte adhésion à la culture policière. Pourrait-on repérer ces individus dès le début du parcours? L'enquête le dira peut-être. Déjà, l'analyse des trois premières années de données montre l'évolution des caractéristiques personnelles des candidats et candidates. L'impulsivité diminue avec le temps, ce qui est rassurant, mais du côté de la prise de risque, ça augmente chez certains et diminue chez d'autres, constate Rémi Boivin avec étonnement. Très franchement, je ne m'attendais pas à un tel changement entre le début et la fin de la formation. Ça laisse entendre que c'est un bon moment pour cibler et modifier certains comportements ou inculquer certaines valeurs. l'équipe de recherche dispose du financement nécessaire pour suivre les volontaires jusqu'en 2026 et espère prolonger l'enquête jusqu'à la fin des temps, lance Rémi Boivin, mi-blagueur, mi-sérieux. C'était « Enquêter sur la police », un texte de Raphaël Derome paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science.
Trois questions à une spécialiste de l'anxiété. Un texte de Marie-Josée Roy, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Spécialisée en traitement de l'anxiété et du trouble de stress post-traumatique, la psychologue Pascale Brion vient de publier le livre « Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et à faire confiance ». Docteur Brion, quels types d'événements peuvent nous amener à développer des symptômes post-traumatiques? Ceux qui impliquent la mort ou une menace de mort, des blessures graves ou une menace à notre intégrité physique ou sexuelle ou à celle d'autrui. Conséquemment, plusieurs événements sont potentiellement traumatisants, par exemple les actes de violence interpersonnelle, agression physique ou sexuelle, les accidents de la route, les catastrophes naturelles et les actes perturbants vécus au travail, pompiers, policiers, infirmiers, etc. Quels symptômes doit-on surveiller? Les signes post-traumatiques se regroupent en quatre catégories. Les symptômes de reviviscence, cauchemar, détresse en présence d'éléments associés au trauma, les symptômes d'évitement de tout ce qui y est lié, les altérations négatives des pensées et des émotions, blâme, perte d'intérêt, ainsi que les altérations de l'éveil et de la réactivité, état d'alerte constant, irritabilité, difficulté de concentration. Ces différentes réactions sont souvent vécues de façon simultanée dans les semaines qui suivent le traumatisme. Est-il possible de s'en sortir seul? Si les symptômes post-traumatiques sont vécus sur plusieurs mois, il est rare que seul le passage du temps aide à les diminuer. En fait, ils ont tendance à se cristalliser. Des stratégies plus ciblées et reconnues scientifiquement sont alors nécessaires et pourraient être d'un grand secours. C'était trois questions à une spécialiste de l'anxiété, un texte de Marie-Josée Roy, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.